les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard. 5,
2, 1. Oh, salut, salut tout le monde sur le soleil de Québec. Mon Dieu, je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, mais moi, ça me rend particulièrement de bonne humeur. Vraiment, ça fait 2 jours que je suis comme pleine d'énergie vu cette température semi-estivale. Je dis ça parce que ça reste un peu frais, puis j'aime ça. Il y a quelque chose dans cette transition-là qui est le fun, puis il n'y a pas beaucoup de slots, il n'y a pas beaucoup de boîtes, il n'y a pas beaucoup de, tu sais, le printemps un peu maussade et sombre qu'on a habituellement. Donc, c'est parfait. Ça va être un heureux mélange comme le chroniqueur du retour avec ses cocktails. Ça s'appelle Heureux Mélange sur Instagram si vous voulez aller suivre, il est vraiment intéressant. C'est 6 degrés à l'extérieur et c'est le début de leur CV. Merci beaucoup d'avoir choisi Boulevard 102.1 et de continuer en fait à vous faire accompagner par la belle gang ici. Mon nom est Pascal et je suis avec vous jusqu'à 11h avant de commencer l'heure du lunch avec Marceau le midi, Thomas Gauthier, puis qu'on file jusqu'à 14h facile avant le retour de Denis Gravel. Comment allez-vous? 88-971-1021. Ça m'arrive une fois de temps en temps, mais là, je prends les présences, OK? Alors, je vais faire un record de texto au 88-971-1021. Je veux savoir qui est là et d'où vous écoutez. Comment vous allez? Pour vrai, là, pas juste « Hey, ça va bien ». 88-971-1021, ça peut être juste un petit « Hello » si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous êtes entre deux choses, mais que vous êtes fidèle au poste. Salutations à tous ceux qui ont déjà dit bonjour avant l'émission. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un genre de rituel que j'ai depuis plusieurs années avec certains auditeurs. Puis on se texte tous les débuts de journée, en fait. Un beau bonjour, puis après ça, l'émission commence. Puis on file ensemble. Je vois la première chanson dans l'émission aujourd'hui. Je suis vraiment contente de l'avoir. C'est une reprise d'une chanson que j'aime beaucoup. Puis la reprise, elle est aussi bonne. Donc, restez là. On va s'offrir ça pour commencer l'émission dans un instant. D'abord et avant tout, le proverbe du jour. Hey, spécial, lui, aujourd'hui. Il est clair. Il ne peut pas être plus précis et plus, comment dire, aigu, disons-le de même. Qui couche avec des chiens se lève avec des puces. Tenez-vous-le pour dit. Qui couche avec des chiens se lève avec des puces. Alors, entourez-vous de bonnes et saines personnes. C'est peut-être ça aussi. Et soyez bons et sains aussi. T'sais, souvent, on donne ça aux autres. En fait, la responsabilité d'être bon et sain, mais on a la nôtre aussi là-dedans. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir deux personnes en particulier. Jennifer Obensawin, qui pense à finalement être la prochaine mairesse, je veux dire comme ça, de Wendake. En fait, Jennifer, je la connais depuis le cégep. Elle a étudié en médias, puis elle a toujours été très, très, très impliquée dans sa communauté. Elle a toujours voulu vulgariser plein de choses qui sont plus loin de nous, si on veut. Mais elle est extrêmement sympathique, extrêmement dynamique, et elle pense à la chefferie à Wendake. J'aimerais ça aller jaser avec elle de cette communauté-là qui est à quoi, quelques minutes de route, en fait, de Le Bourgneuf, où on est à la station, et qui, en fait, est une communauté super enrichissante, super intéressante, puis qui est mêlée à nous, à tous les jours, en fait. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis j'ai des amis qui viennent de Wendake, qui sont dans la communauté, puis sont extrêmement intéressants à connaître. En d'autres termes, là, juste dans leur technique de chasse, dans leur technique de pêche, pour ceux qui chassent et pêchent, c'est tellement le fun de les entendre parler, vénérer aussi les animaux, puis être dans la grande, comment dire, dans le grand respect de tout ça. Puis ça, c'est juste une parcelle. Sinon, on pourrait aller dans d'autres parcelles, puis vous allez voir que ce sont des gens extrêmement attachants, gentils, puis qu'il faut aider, en fait, à faire en sorte qu'ils ne perdent pas tout ce qui a été transmis de génération en génération et dans leur culture. Donc, oui, pour ceux qui écrivent, elle a déjà été journaliste à la télé aussi, Jennifer. C'est là où je l'ai connue dans les médias, donc certainement qu'elle a exercé la profession pendant quelques années pour ensuite se tourner vers sa communauté d'autant plus. On va aller jaser en fin d'émission, super fine, vous allez voir, belle conversation qu'on va avoir avec elle. Mathieu Montaroux aussi, ça se peut que si vous écoutez l'émission depuis un bout. Vous le connaissiez, c'est celui qui s'occupe du blog de Québec Preppers pour des citoyens préparés, finalement. Ce n'est pas un survivaliste avec une porte là, de sous-marin dans son bunker caché en forêt, mais c'est un gars qui est préparé. Alors, s'il arrive quoi que ce soit, inondation, feu de forêt, peu importe, lui est préparé, il sait où est-ce qu'il s'en va, il y a des stratégies mises en place et il y a toujours des conseils pour nous. Il écrit aussi des livres, en fait. Il y en a un qui devrait paraître sous peu, si je ne me trompe pas, de la date de parution. On nous en parlera un petit peu plus tard. Et c'est un gars aussi qui a été dans l'armée du côté de l'Europe. Super intéressant, très vulgarisateur de tout ça. Puis moi, je voulais aller y parler parce qu'hier, je suis restée sans mots de ce qui s'est passé aux abords des ponts. Autre que le trafic, il y avait des comportements particulier, là. Passer sur l'accotement, couper des policiers, pas laisser passer des ambulanciers pour une éclipse solaire. Moment historique, tout le monde était excité, on a eu du plaisir, c'était beau, c'était le fun, c'était plus grand que nous. Ça nous rappelle à quel point on est un pion, rien, une poussière dans l'univers. Pour certains, ben, c'est pas quelque chose de positif. Hein. Les gens qui s'aiment bien gros seront pas contents de ça, mais je fais des blagues avec ça, mais c'était une superbe journée. Sauf que de voir ça, ça m'a inquiétée. Puis j'aimerais ça avoir son point de vue là-dessus, parce que s'il y avait une catastrophe, quand l'émotif entre en ligne de compte, il arrive quoi? Je sais que certains étaient découragés des comportements humains qu'on a eus hier. On va pas en faire une grosse balloune, là. On va la péter tout de suite, mais on va certainement en jaser parce que je trouve ça important. Je trouve ça important qu'on se pose des questions personnelles sur nos comportements en situation peut-être de catastrophe, mais aussi d'engouement, en situation où on pourrait être tenté de faire passer notre personne avant les autres, dans un contexte qui est collectif, qui est social. En tout cas, Mathieu Montaroux et nous, allons avoir une grande conversation sur tout ça. Puis j'aimerais ça aussi, si vous avez des commentaires là-dessus, que vous les fassiez avant sa parution. Donc, au 418-971-1021 ou encore, bien sûr, sur Twitch, parce que les caméras sont ouvertes. Je suis bien là avec vous. Toute la gang aussi a commencé à jaser entre eux. Alors, twitch.tv/blvd/fm. Ça commence. Je vous l'avais dit que je l'aime beaucoup, cette chanson-là, pour plusieurs raisons. Je la trouve entraînante. L'original est super bonne aussi. C'est rare qu'on a des chansons franco qui traversent l'océan, parce que ça, c'est un band français d'abord et avant tout. Et Fortune Cookie Club l'a reprise, It's All, à Boulevard 102. TV avec Pascal CV. De retour à l'émission à 10h20. Je suis vraiment contente d'aller lui reparler. Vous le connaissez peut-être. Je l'invite une fois de temps en temps dans ce genre de situations comme celle qu'on a vécue hier. Bon, d'abord et avant tout, éclipse solaire, c'est un événement qui est positif. Mais on a vu des petits coyotes puants. Vous savez, je les appelle comme ça, les gens qui vont passer sur des accotements, vont pas faire leur lumière rouge, vont pas faire leur arrêt stop non plus. Ils vont finalement pas se soucier de grand-chose parce qu'ils sont bien excités de manière positive ou négative face à l'état de, comment dire, d'urgence, je vais le dire comme ça, mais de l'état d'urgence personnelle face à un événement. Puis hier, c'était l'éclipse solaire. Donc, tout le monde voulait passer rapidement, pas rester dans le trafic pendant 2-3 heures aux abords des ponts. Voulait se rendre à Saint-Georges pour vivre cette merveilleuse journée historique. Faut le dire quand même, là. C'est un événement spectaculaire qu'on a vécu hier. Mais c'est là où tu vois qu'il y a certaines personnes qui détonnent. Est-ce que je suis capable de 100% les juger? Non. Je dis pas que j'encourage des comportements du genre je passe sur l'accotement puis je me soucie plus de ce qu'il y a autour de moi. Mais dans tout ce qui est émotivité, j'ai assez étudié certaines portions de psychologie pour savoir que c'est pas nécessairement le rationnel qui a pris le dessus. Donc, c'est pour ça que je suis pas dans le jugement complet de la personne. Mais je peux dire qu'une petite gang de coyotes puants, par exemple. Vous savez que ça, soit c'est un qualificatif attachant, gentil, mais quand même qui va droit au but. Et j'ai pensé à mon ami Mathieu Montaroux hier. Je me suis dit, mon Dieu, il aurait été découragé. Et probablement que pour lui, ça enrichit encore plus sa façon de voir les choses si jamais on avait à vivre une situation d'urgence négative. Je m'explique. Il arrive quoi que ce soit avec un des ponts à Québec, il faut évacuer. Il y a, des inondations montres. Il faut partir de la rive sud à la rive nord ou le contraire. Il arrive, une situation de guerre, peu importe. On peut aller loin, Mais supposons qu'on a à évacuer Québec et que ça se passe comme hier. ça veut dire des gens qui n'écoutent pas les consignes des policiers, des gens qui ne laissent pas passer des ambulances, des gens qui finalement se priorisent. Puis voilà pourquoi j'avais envie qu'on ait une petite discussion avec Mathieu, parce qu'il est très rationnel, équilibré, terre à terre dans tout ça. C'est un ancien de l'armée française et c'est surtout maintenant le fondateur de Québec Preppers pour des citoyens préparés à un peu de tout. C'est un conférencier et un auteur, il a déjà publié plusieurs livres. Et Mathieu est en direct de Zoom avec nous dans leur CV. Salut Mathieu!
Bonjour tout le monde, bonjour à toi.
Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais hier, j'ai vraiment eu une pensée pour toi. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'il est allé voir ce qui se passait un petit peu partout puis qu'il a vu les bouchons monstres puis qu'il s'est dit, c'est un événement positif, mais ça donne peut-être une leçon pour ce dont on a à travailler si jamais il arrivait quelque chose de, d'urgence collective.
Ben oui, effectivement, on parle toujours d'éducation, hein, que ce soit par mon site web, effectivement, que ce soit par les livres ou les différentes allocutions que je peux donner dans les journaux, la télé ou à la radio. On veut éduquer au maximum la population à faire face à différents aléas. Encore une fois, on parle là d'urgence ou non-urgence, ou comme tu dis tantôt, de l'urgence personnelle pour son bien-être et son confort personnel. Mais la base reste la même, être prêt à faire face en cas de. Et effectivement, s'il était arrivé un désastre à ce moment-là, on peut largement imaginer que les dommages collatéraux, finalement, auraient été importants.
Parce que
Donc, c'est
là,
pour
c'est...
ça que
Oui,
ouais,
vas-y.
vas-y. Dans la préparation, on dit toujours que là, tu prenais l'exemple pour les ponts. Bon, ben, c'est sûr qu'il faut toujours avoir un plan A, c'est sûr, mais un plan B et un plan C. Donc, ceux qui se basent sur une seule alternative, déjà, ils ont un train de retard, on pourrait dire ça comme ça.
T'sais, hier, on discutait, puis en émission, on se disait, ben, si vous voulez être à Saint-Georges, attends pour l'éclipse. Là, en ce moment, c'est congestionné sur les ponts depuis... Ben, c'était à partir de 11 h hier matin, finalement. Certaines personnes disent, bon, passons par Trois-Rivières, le pont La Violette, faisons le détour, rendons-nous. Il n'y a pas 100 000 options, puis c'est pour ça aussi que le troisième lien est bien discuté ici à Québec. Il n'y a pas 100 000 options pour passer de la rive sud à la rive nord ou le contraire. Dans une situation catastrophique, Mathieu, toi, tu n'es jamais dans le jugement de l'humain, tu es dans la compréhension psychologique et psychiatrique quasiment de tout ça. Mais ça peut devenir facilement émotif. C'est quoi notre devoir individuel là-dedans? Parce que c'est sûr que je comprendrais, admettons, dans une situation d'urgence, une famille qui veut sauver ses enfants ou un papa, une maman qui dit, ben non, nous autres, on passe, puis rendu là, c'est chacun pour soi. C'est vrai que ça prend vite le dessus, ça, dans ce genre de situation-là?
Ben en fait, là, comment on l'explique par rapport à ce qui s'est passé, bon, on savait qu'à telle heure, il allait y avoir tel événement. Bon, là, l'éclipse, OK. Mais dans la préparation citoyenne, on parle toujours du Golden Hour. Donc, le Golden Hour, c'est quoi? C'est dès qu'on entend une suspicion de catastrophe, là, pour parler de catastrophe, ou d'aléa, ou autre chose, un événement, on veut pouvoir, nous autres, citoyens prévoyants, pouvoir évacuer dans la première heure. Parce qu'on estime finalement que dans cette première heure-là, c'est là qu'il y aura le moins de personnes. Justement sur le réseau routier, sur le maritime, peu importe, sur les voies d'évacuation finalement. Au-delà de cette première heure, finalement, les congestions, les bouchons, les problèmes vont commencer à arriver puis à augmenter.
Le stress, la panique aussi, parce que là, on voit que finalement, les gens ont pris les décisions en même temps que nous, un petit peu plus tard ou au moment où ça se passe. Je te décris toujours comme étant, t'es pas le survivaliste avec la porte de sous-marin dans un bunker caché en forêt, toujours habillé en camouflage, pas du tout. On te croise en rue puis on se doute pas que t'es un citoyen préparé, mais en même temps, avec le temps, finalement, on s'est rendu compte que c'est eux qui se sont préparés qui vont aller mieux dans la société parce qu'ils vont pouvoir être des leaders. Et tu m'as souvent expliqué que dans ce genre de situation, peu importe quelle situation, comme hier, c'était bon, la police qui faisait un certain courant, qui essayait de gérer la situation, mais il faut un leader. Hein. Fait que dans le foyer, soit la famille, il faut s'assurer que le rôle de leadership est bien établi. Si jamais on a à gérer une situation comme une digue qui brise, on a 15 minutes pour évacuer la maison ou encore des feux de forêt ou peu importe. Il faut avoir prédéfini les rôles familiaux.
Ben oui, en fait, on a plusieurs échelles. Hein. C'est sûr que moi, au niveau, puisque bien depuis plusieurs années maintenant, je travaille tant dans les catastrophes au niveau professionnel que personnel en tant que consultant en mesure d'urgence. Mais
Avec le gouvernement, entre autres, là.
oui, tout à fait. Moi, à titre personnel, bon, je le fais en tant que consultant au niveau de la famille, du réseau, du cocon familial. Donc, effectivement, comme tu le dis, que ce soit le couple ou l'un ou l'autre qui soit leader, peu importe, tu l'as très bien dit, il faut que ça soit établi pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Mais là, si on prend l'exemple d'hier, bon, ben, il faut que ce leadership-là soit, comment dire, établi sur une échelle plus importante. Donc, pas forcément une personne, mais un groupe de personnes qui vont prendre le lead. Donc là, tu parlais finalement des services de police. Donc, c'est eux qui ont le lead
La
sur l'événement.
collectivité, oui.
Exactement.
Tu as souvent parlé du fait que, bon, faut avoir travaillé en amont d'une manière pas sauter, je vais le dire comme ça, mais sur des plans d'évacuation simplement un scénario du genre, hey, moi, je peux pas être chez moi, dans ma maison, pour une période X. Je sais où je m'en vais, je sais par où je passe, ou encore j'ai deux, trois options, que ce soit les grands-parents, que ce soit les tantes, les oncles, mais que ce soit préétabli. Comme ça, si ça arrive, « Hey, te rappelles-tu, on a discuté il y a 6 ans que si je devais quitter ma maison, tu allais m'héberger avec ma famille. » Ça, pour toi, c'est super important?
Ben oui, en fait, la base, c'est ça. Puis c'est vraiment cool que tu parles de ça parce qu'on voit finalement qu'au fur et à mesure des mois et des années, tu acquiers finalement cette connaissance-là puis cette compétence-là. À la base, on va faire une analyse de risque. Donc, on va analyser les catastrophes les plus probables dans ma région. Donc, tu parlais tantôt qu'effectivement, je ne suis pas habillé en camouflage avec un sous-marin et tout. Non, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, depuis 2017, j'aspire à éduquer finalement la population pour que chacun dans la population se sente concerné par ce mouvement-là, parce qu'il est, accessible à tout le monde, peu importe le rang social, peu importe le niveau social, etc., etc.
Parce que vous avez été longtemps stigmatisé, là. Vous avez été vu comme des gens un peu en problématique de paranoïa puis de peur qu'il arrive quoi que exact. Ce soit, puis avec des sous-sols remplis de sacs de riz. Puis...
Mais ça l'est encore dans certaines régions, certains pays, là, que ce soit en Europe ou par moments aussi aux États-Unis. Mais encore une fois, avec votre aide, l'aide des médias, les journalistes et autres, on travaille encore une fois depuis 2017 sur une belle pente, une belle collaboration. Puis tout ça pour dire qu'en revenant à l'analyse de risque, on analyse les catastrophes les plus probables dans la région. Et suite à ça, on va faire un plan d'évacuation, un plan de préparation, que ce soit au niveau connaissance, que ce soit au niveau compétence, que ce soit au niveau, encore une fois, de l'équipement. Mais l'équipement, finalement, c'est souvent ça qui revient en amont. Mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment la connaissance et les compétences.
Ça fait souvent rire mon entourage, puis j'en avais parlé en pandémie et tout. T'sais, moi, je suis un écureuil, là. T'sais, mon garde-manger, il est plein de façon aussi simple que si le dimanche, je veux faire une sauce à spaghetti, j'ai ce qu'il faut dans mes congélateurs, dans mes armoires. Puis j'en parlais à la radio, puis ça faisait rigoler. Mais je pense qu'il y a quand même un minimum de préparation aussi à l'interne, à la maison, qu'on doit avoir, parce que même hier, il y a des gens qui faisaient des blagues, mais sur les pages potées de Costco, c'est mes pages favorites, moi, c'est Spotted quelque chose-là. Et des gens qui disaient, voyons, ça arrive, puis ça vient chercher du papier de toilette et tout, faisant en référence à ce qu'on a connu en pandémie. Quand le stress et l'émotif prend le dessus sur notre cognitif, là, ça peut nous faire faire plusieurs choses. Est-ce que le fait d'être préparé, justement, d'une manière ou d'une autre, puis donne-nous comme un top 3 de ce qu'on doit préparer puis s'assurer qu'au quotidien, ça soit dans notre vie, va justement faire en sorte qu'on va être plus lucide dans ce genre de situation?
Ben, en fait, oui. C'est sûr que pour ton top 3, ça va être la nourriture, l'eau et puis le chauffage. Par exemple, le chauffage, on met ça avec la lumière aussi, là. Puis tous ces problèmes-là vont être décuplés hein, si on a des enfants. Hein. Moi, j'ai des enfants, j'ai Léna, elle a 2 ans passé, Logan a 7 ans. Ces enfants-là, ils ont besoin d'un confort, ils ont besoin de se sentir en sécurité. S'ils voient que les parents sont démunis, dépassés, c'est sûr qu'eux autres, ils vont le ressentir, puis ça va être fois pire.
Ça va être désorganisé encore plus, mais oui.
Exact.
Donc, tu parles de nourriture, tu parles de, lumière, donc peut-être la lampe de poche et tout, là, qu'on peut charger, oui, avec les batteries, mais aussi peut-être avec l'énergie solaire. Puis tu parles aussi, tu m'as dit de l'eau, fait que peut-être avoir un genre de contenant d'eau. Mais ça calme nos ardeurs personnelles dans notre petit foyer, mais est-ce que tu penses qu'on doit impliquer aussi des amis dans tout ça ou d'autres membres de la famille?
Ben oui, là aussi, on a encore beaucoup de chemin à faire, malheureusement. Là aussi, je travaille beaucoup là-dessus. Mais on a beaucoup de loups solitaires dans notre mouvement qui pensent qu'à la moindre catastrophe, ils vont pouvoir évacuer dans la forêt puis vivre plusieurs mois. Alors qu'on sait très bien qu'au Québec, les mois d'hiver sont très, très, très significatifs de par la température et que... Avec ça, on ne peut pas avoir, même moi, on ne peut pas avoir toutes les connaissances et les compétences et l'équipement nécessaire à moi tout seul. Donc, j'ai tout intérêt, finalement, à créer une communauté à la fois proche, que ce soit mes voisins au-dessus, au-dessous, ou même de la rue, ou même du quartier de Montréal dans lequel j'habite, par exemple pour des jardins communautaires. Donc, pour avoir la place et les ressources nécessaires en cas de catastrophe.
Est-ce que l'humain te fait peur, toi, Mathieu, quand justement l'émotivité prend le dessus? C'est-tu ta plus grande crainte dans ce genre de situation-là? Comme on a vu hier, tu as des gens qui passaient sur les terre-pleins, qui ne laissaient pas aller les ambulances, puis c'était positif, là, c'était l'éclipse solaire. On pouvait prendre un petit pas de recul, là.
Oui, parce que le commun des mortels, finalement, les 98-99% de monde qui sont non préparés, vont finalement laisser parler leurs émotions. Puis on sait très bien que si c'est les émotions qui parlent, c'est pas l'entraînement, c'est pas la préparation. Si on prend de l'autre côté du spectre, toutes les forces armées, justement, les paramédics, les policiers, eux autres s'entraînent à tous les jours pour justement que l'émotion ne prenne pas le dessus en cas de catastrophe. Donc ces gens-là sont rationnels, ils vont savoir quoi faire, mais il va falloir qu'ils fassent face finalement à tous ces gens qui seront pas préparés puis qui vont faire n'importe quoi.
Je reviens toujours quand on se parle, Mathieu, au fameux petit sac à mettre dans l'entrée de la maison, un petit sac qu'on adapte selon les saisons, avec peut-être les photocopies des prescriptions, des cartes d'assurance maladie ou encore des médicaments en double qu'on peut avoir, qu'on met là-dedans. Faisant référence, on s'était parlé aux inondations quand les gens avaient eu un 15 minutes pour évacuer, ils cherchaient, couraient partout dans la maison. Qu'est-ce qui va me rester à la fin? Qu'est-ce que je vais avoir besoin? T'sais, que ce soit des kits de rechange pour toute la famille, au moins avoir un petit quelque chose de prêt, là, toujours à la porte.
Ben oui, puis tu sais, tu le dis avec les inondations, mais l'été dernier, on l'a vu aussi avec les feux de forêt. C'est sûr qu'on a beaucoup de monde, que ce soit tes voisins, tes parents ou autres, qui vont dire oui, mais ça ne t'empêchera pas de mourir si, effectivement, ça ne nous empêchera pas de mourir s'il y a une grosse catastrophe. Mais ça va améliorer nos chances de survie et de confort. Puis c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. C'est juste améliorer nos chances de survie et de confort. Tu sais, si je prends l'exemple type de ton véhicule, tu roules sur l'autoroute, puis finalement, on a deux personnes. On a une personne qui met sa ceinture, puis l'autre qui ne met pas sa ceinture de sécurité. Est-ce que le fait de mettre ta ceinture de sécurité va t'empêcher de mourir? Non, elle ne t'empêchera pas de mourir. Par contre, elle va améliorer tes chances de survie. Puis c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir.
Oui, puis tu sais, on peut avoir les images de, comme l'émission de Last of Us. Il y a vraiment un épisode qui est fascinant pour ceux qui ont vu la série. En passant, je vous la recommande. C'est vraiment très, très bon. Puis la deuxième saison s'en vient. Mais il y a un des épisodes où c'est un homme qui s'est préparé à vivre seul dans toutes les circonstances où il pourrait se faire attaquer. Il a monté des gardes autour de lui. Il est autosuffisant sur bien des choses. Il est en forme, mais il souffre de solitude aussi. Il y a ce point-là quand on dit qu'on travaille en collectivité. Puis d'abord et avant tout, c'est pas une course contre la montre à savoir quelle sera la dernière personne sur Terre, là, parce qu'on pense pas qu'il y aura des gens qui vont mourir en masse là, dans les prochaines années. C'est pas là où on est. C'est juste, en fait, d'avoir un devoir collectif sur notre propre sécurité, puis d'être capable aussi de pas se fier simplement sur les autorités pour notre besoin personnel. Ce serait peut-être une erreur de ce côté-là, Mathieu?
Tout à fait, oui, parce que s'il y a une grosse pandémie, s'il y a une grosse catastrophe, chaque personne est humain, pareillement pour les infirmiers, pareillement pour les policiers. Et à un moment donné, ces personnes-là, les forces de l'ordre ou les agents, les infirmiers, les médecins, ils vont se dire ben, « peut-être que moi aussi, je vais rentrer chez moi pour prendre soin de ma famille ». À ce moment-là, on ne pourra plus compter justement sur les forces de l'ordre et le service de santé.
Mais ne soyons pas dans les scénarios apocalyptiques. Cependant, ça reste intéressant d'en jaser, puis ça reste important d'aller farfouiller ton site web Québec Preppers, Mathieu Montaroux. Toujours un bonheur de te parler. Je sais que tu es en finalité d'un prochain ouvrage qui devrait sortir dans les 2, 3, 4 prochains mois. Ton prochain livre est à quel sujet cette fois-ci?
Ben justement, sur les pires scénarios. Donc, ça vient compléter les 3 premiers ouvrages. Mais c'est ça, on aborde encore plus en profondeur les pires scénarios, puis avec un peu plus d'équipement, avec un peu plus d'informations sur le soi, sur les émotions, et plus que sur les équipements qu'on a vus dans les précédents ouvrages.
Si ça vous intéresse, contactez Mathieu par ses différentes plateformes. Ce serait le fun aussi, un genre de, je sais pas moi, peut-être centre de foire rempli pour justement préparer les gens ou encore apprendre certaines techniques. Je lance ça dans l'univers, Mathieu, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, qui entendent tout ça, puis qui disent « Hey, moi j'ai une compagnie, je trouvais ça le fun, je m'appelle La Tulipe, puis je veux m'associer avec toi pour justement former des gens, peu importe. » Mathieu Montaroux, on se reparle, puis j'espère que ce ne sera pas dans une situation un peu triste ou tragique, mais plutôt Merci. Dans la préparation de tout ça. Salut Mathieu.
Merci beaucoup.
À la prochaine. J'adore parler à cet homme-là qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis comme je vous dis, c'est quelqu'un qui prend la peine de nous renseigner comme il se doit, pas dans un instant de panique ou dans des scénarios épouvantables. On n'est pas dans une folie collective, on est vraiment dans une préparation collective. Je vous le dis, allez farfouiller ses pages, ça vaut la peine. Puis pour ceux qui deviennent accros à tout ça, ben parfait, on se parlera entre nous, entre personnes qui ont des passe-temps un petit peu particuliers. Ouvre tes yeux, Simon, à Boulevard 101, les 3 accords dans vos oreilles. Merci d'être dans leur CV. Au retour, on parle à Jennifer Obensawin qui réfléchit à peut-être devenir la tête de Wendake. Elle est toute jeune, elle est dynamique, mais surtout, elle fait partie de la communauté puis elle va nous donner un accès privilégié dans notre conversation. Au retour, après les 3 accords.
Réfléchis, j'ai 6 cerveaux en fait. Leur CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Ça fait réagir, je vous le jure, c'est le fun. C'est peut-être un peu trop le fun même, se renseigner sur ce genre de choses-là. Aussi le fun que notre concours, je vous rappelle, si vous entendez du Blink-182 sur nos ondes à Boulevard 102.1, ben vous pouvez aller enregistrer l'heure à laquelle vous avez entendu la chanson sur le site de blvd.fm et risquer, le plus grand risque de votre vie, risquer d'être finaliste pour le Rock and Balls. Ça veut dire aller voir un show de Blink-182, aller voir un match des Blue Jays, mais où? À San Francisco. Restez sur la programmation de Boulevard 102.1. Toutes nos équipes sont là pour vous en parler parce qu'on est bien, bien fiers d'être la radio qui vous envoie dans un gros trip comme ça en partenariat avec Variété 2020. Très heureuse de l'accueillir au micro. Je ne vais pas vous mentir, on se connaît depuis quelques années déjà. On a étudié dans le même domaine. Puis finalement, comme ça arrive parfois, la politique côtoie les médias et pas juste aux professionnels. Elle est au bout du fil. Elle s'appelle Jennifer Obomsawin. Et je l'accueille immédiatement parce qu'elle faisait l'actualité ce matin et elle ne la créait pas finalement. Salut Jennifer.
Oui, Pascal.
Je te parle ce matin parce que ton visage était dans les médias. En fait, ce qu'on apprend, c'est que tu serais intéressée, selon les palabres, les rumeurs, en fait, à devenir la tête de Wendake. En fait, tu penses à la chefferie de Wendake, Jennifer. D'abord, pourquoi?
Bien, en fait, parce qu'il n'y a aucune femme, puis aucun jeune nécessairement qui est en politique autochtone. On a vraiment beaucoup, beaucoup de croûte à manger là, pour être capable d'avoir une meilleure représentativité dans nos communautés. Puis, tu sais, moi, ça fait à peu près 13 ans là, que je suis en politique autochtone. J'ai toujours été staffer, j'ai toujours été femme de l'ombre. Puis, même, je me suis dit, bien, pourquoi je ne pourrais pas, moi, y aller, puis l'essayer, puis incarner un peu ce que je défends depuis des années. Puis, je pense fondamentalement qu'on a beaucoup là, à réapprendre de nos traditions, de notre façon de voir la vie, les choses, notre culture. Chez les Premières Nations, notamment, c'est les Hurons-Wendat, qui est ma nation. Nous, là, c'était matricentriste. La femme, elle est au cœur de tout, dans notre conception, dans notre langue, dans notre façon de voir le monde, la place que les femmes avaient en politique à l'époque. Et on est tellement loin derrière. Là, aujourd'hui, on regarde à la table des chefs, il y a peut-être une ou deux femmes là, qui sont chefs élus. Puis, je ne suis pas sûre qu'elles ont tant non plus support de la table, qu'elles sont capables de bien s'exprimer, puis de faire leur rôle, puis de se sentir supportées. Mmh. On a vu plein de trucs en politique municipale, notamment, en politique provinciale. C'est difficile. Moi, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? À quelque part, je suis idéaliste. Là, je pense que les choses vont changer par la politique. Je suis encore de ceux-là là, qui croient là, que c'est comme ça qu'on va changer des choses, notamment. Mais il y a d'autres façons aussi. Mais je pense que la politique est une belle façon là, de pouvoir changer les choses. Fait que, je suis un peu dans cette réflexion-là à l'heure actuelle de dire, est-ce que ma nation, ma communauté, elle est prête à avoir aussi une jeune femme à sa tête? Fait que je suis en mode écoute, je regarde un peu ce qui ressort. Puis, ce matin, c'est ça, ça a été super beau topo là, que j'ai eu la chance de faire avec Karine Gagnon pour me présenter un petit peu qui je suis et ce que je pourrais apporter. Mais c'est ça, je suis en phase de réflexion pour les prochains mois. Puis j'espère vraiment que les gens de ma communauté vont m'approcher, que les gens de ma nation vont vouloir s'impliquer dans ce mouvement-là, dans ce changement-là que je souhaite faire. Puis fondamentalement, je pense que c'est la façon de changer les choses et d'avoir le plus d'impact au niveau des Premières Nations.
Le premier, je pense que la première communication que j'ai envie d'avoir avec toi à ce sujet-là, c'est Wendake, c'est à 5 minutes de Le Bourgneuf où nous, on est en studio en ce moment. C'est à 5 minutes de presque tout le monde, en fait, dans la grande région de Québec. Dans le sens où on se côtoie, on se voit à chaque jour. Est-ce qu'il y a encore un genre de barrière entre la communauté de Wendake et le reste des gens, des citoyens dans la capitale nationale? Parce qu'on se côtoie, mais on ne se parle pas justement de différences. Est-ce qu'il y en a encore des différences?
Assurément. Puis, je trouve ça quand même dommage d'avoir ce topo-là aujourd'hui, mais c'est la réalité. Puis, je pense que même nous, comme nation, on a de la difficulté à inclure nos membres qui n'habitent pas sur la communauté. On a encore une certaine fermeture. Je sais pas si c'est de la crainte, si c'est de la méfiance, si c'est le fait qu'on a été tellement échaudé qu'on se retrouve aujourd'hui dans une dynamique où on se dit, on aussi bien rester entre nous puis se protéger. Mais tu sais, assurément que c'est pas la réalité, tu sais, 2024, puis ce qu'on veut mettre de l'avant pour la suite des choses. C'est nous, chez nous, on a plus de 1000 membres de notre communauté qui habitent à 20 km de la communauté, puis on les connaît même pas. T'sais, on sait même pas c'est qui, ce qu'ils font dans la vie. Fait, quand arrive le moment d'avoir des relations avec d'autres instances gouvernementales ou avec les gens, tu sais, de Québec, c'est sûr que, tu sais, en termes de priorité, c'est rarement une priorité pour différents leaders là, de nos communautés. Mais moi, j'aimerais faire renverser ça. Puis, tu sais, on a vu aussi avec le nouveau leadership de Rémi Vincent qu'il y a eu quand même un changement au niveau des relations. Tu sais, je veux dire, il a été quand même nommé là, dans les personnalités influentes de la ville de Québec. Les relations se sont grandement améliorées aussi avec avec la mairie là, du côté de la ville aussi.
Là, tu parles du grand chef de Wendake, là, Rémi Vincent, pour ceux qui ne savaient pas. Là.
C'est ça. Fait qu'on a quand même changé une couple de choses là, en termes de relationnel, mais il y a encore du travail à faire, ça, assurément. Je pense que ça va commencer justement par une plus grande ouverture. Tu sais, puis je le souhaite fondamentalement qu'on soit plus ouvert, puis qu'on ait envie d'aller à la rencontre de l'autre, puis qu'on ait envie aussi de faire de la place aux autres dans notre réalité. Puis c'est un peu aussi, tu sais, ce qu'on faisait avec Karine là, en faisant l'article ce matin. Tu sais, je trouvais ça quand même drôle. Je sais comment, pourquoi tu t'intéresses à ce qui se passe, mm-hmm. en politique à Wendake? Puis ça reste que le Journal de Québec. On s'est dit, bon, ben c'est rare, c'est qu'on a cette couverture-là ou cette chance-là de pouvoir discuter de politique active là, à Wendake de cette façon-là. Souvent, ça va être une tribune qui est utilisée par des candidats à la mairie ou dans d'autres instances. Puis c'était comme, mais non, au contraire, elle dit, je pense qu'on est rendu là où les gens s'intéressent à ce qui se passe, ils ont envie de participer à tout ça. On a envie de savoir ce qui se prend parce que, tu sais, effectivement, on est des voisins. Puis, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on va toujours demeurer des voisins. T'sais, on est à 5 minutes l'un de l'autre. Je pense qu'on a tout intérêt, d'une part, nous, à être plus ouverts, à vous faire plus de place. Puis, on le sent aussi qu'il y a une plus grande ouverture, puis une plus grande volonté, je pense, d'apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Puis, ultimement, notre réalité est aussi votre réalité. T'sais, je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble.
J'ai tellement de questions, Jennifer, parce que, bon, là, je sais que depuis que tu as 12 ans, toi, tu es impliquée dans le Conseil des jeunes, entre autres autochtones. Tu as présidé le Conseil national des jeunes de l'Assemblée des Premières Nations. Bon, tu as représenté beaucoup de jeunes autochtones aussi du Québec, du Labrador. J'ai beaucoup de questions parce qu'il y a des stéréotypes. Je veux pas, ils existent pour certains avec, cause à effet. Tu as dit rapidement, puis j'aimerais ça qu'on prenne le temps, tu as dit rapidement, j'ai l'impression que peut-être on se protège encore dans ce qui est la barrière entre la communauté de Québec et votre communauté. Pourquoi vous protégez ces stéréotypes-là qui ont collé à la peau, qui perdurent pour certaines personnes, parce qu'on ne peut pas passer à côté de certaines détresses aussi qui persistent et qui existent. Mais est-ce que c'est justement le stéréotype qui est trop grand? De quoi vous vous protégez peut-être?
Ben, c'est sûr que c'est. On ne fera pas un cours d'histoire ce matin, même si c'est hyper pertinent. Je pense qu'il faut repartir de la base. C'est nous, comme Première Nation, comme Nation Iroquois, on a été colonisés. Puis on a été pas mal brassés à travers les années. On parle seulement de la rente des années 60 où des enfants des Premières Nations ont été volés de leur famille, vendus dans un réseau international. C'est quand même assez élevé. Je m'en parle pas. Les pensionnats autochtones aussi, tu sais, chez nous, on a eu des écoles de jour, on a eu aussi des pensionnats, tu sais, au Québec. Souvent, on l'oublie que ça nous a touchés, nous aussi. Ça a touché mes grands-parents, ça a touché mes parents. Fait que, tu sais, on se retrouve dans des générations où, tu sais, c'est tellement passé de choses au niveau historique, qui fait que c'est sûr que, tu sais, on a été chaudés, qu'on a été impactés. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable d'utiliser ça comme moteur puis vouloir changer les choses. C'est un peu ce que je veux faire puisque les jeunes aussi, ouais, vraiment dans les communautés, oui, ont comme le désir de vouloir changer les choses fondamentalement puis d'utiliser ça comme levier.
Mais de façon plus positive, en fait, dans la discussion, là, oui.
Exactement, d'être plus ouvert, de dire, bon, ben, tu sais, on reconnaît tous là, que c'est passé ça, mais ni toi, ni d'autres personnes que je côtoie sommes responsables. C'est pas vous qui avez implanté le système des pensionnats indiens, c'est pas vous qui étiez à la tête de la rente des années 60, c'est pas vous qui avez colonisé nécessairement, tu sais, je veux dire, vous arrivez ici comme nous, tu sais. Je pense qu'à quelque part, il faut avoir cette conscience-là de ce qui s'est passé, ce qui explique aussi des fois certaines choses. Mais moi, j'aime pas la dynamique dans laquelle plusieurs, malheureusement, Premières Nations, puis je nous accuse, puis j'accuse d'autres personnes en même temps. Mais tu sais, où on se retrouve dans une dynamique où on veut tenir responsable l'autre de nos malheurs, moi, je suis pas là. T'sais. Moi, je suis dans la responsabilisation. Je pense que c'est aussi beaucoup ce que les jeunes autochtones en ce moment mettent de l'avant. Il y a beaucoup de leaders que j'entends, que je vois, qui sont parfaits. Prenons conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses fondamentalement? Je pense qu'on est plus là. C'est une fois qu'on a tous reconnu là, tout ça, je pense qu'on est beaucoup plus sensibilisés. Dans les écoles, on en parle. Il y a des conférences qui se donnent. Je pense qu'ouvertement dans les médias aussi, on a beaucoup cette couverture-là. Mais là, il va falloir qu'on passe au prochain niveau. Puis, je pense que ça passe par une grande responsabilisation, par une grande reprise en charge aussi de nos instances, de nos gouvernances, de notre façon de faire les choses, pour être d'égal à égal. T'sais. Je pense qu'on est davantage là en ce moment. C'est beaucoup dans l'autodétermination des Premières Nations. Je suis beaucoup là-dedans. Moi, je pense que...
Le partage est important. Puis je trouve ça rafraîchissant de t'entendre dire... Là, pour moi, Jennifer, je suis au courant que c'est pas de votre faute. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé, qui est collectif, qui a laissé des dommages collatéraux importants, qui ont encore des dommages reliés à tout ça. Puis je pourrais rentrer justement dans tout ce qui est lien génétique et autres de traumatisme, mais on n'est pas là-dedans ce matin. On prendra le temps à un moment donné d'en reparler. Tu seras réinvité à l'émission. Mais il y a des choses très, très importantes de tout ça qu'on doit se comprendre. comprendre. On doit, nous, on doit vous comprendre, on doit vous entendre. Puis de l'autre côté, je trouve ça rafraîchissant que tu dises « je sais que ce n'est pas de votre faute à vous ». Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut partager tout ça? Puis je pense qu'il y a un devoir collectif à faire ici, là, dans notre petite région. Là. Somme toute, c'est aussi petit que comment on s'est senti hier face à l'éclipse. Là, nous, en tant qu'individus, un grain de poussière, là. On est tout petit, mais on peut faire de belles choses ici dans la région de la Capitale-Nationale. Et je dis ça parce que j'ai eu, puis je considère comme étant une chance, de rencontrer dernièrement des gens issus de la communauté qui m'ont parlé de pêche, qui m'ont parlé de chasse, qui m'ont amené en forêt, qui m'ont fait voir plusieurs choses. Puis tu sais, c'est des gens que je côtoyais, qui sont en affaires au quotidien, mais qui, à un moment donné, quand j'ai tendu l'oreille, ont commencé à me parler de leurs valeurs, de partager différentes choses aussi, puis le transfert de génération en génération qui se fait encore. Je pense que ça, on a tout à gagner, juste dans votre façon de cuisiner aussi, que nous, on connaît pas, parce que, crime, on n'a pas été élevé là-dedans, puis je veux vraiment pas séparer puis creuser comme un gouffre entre vous et moi. Au contraire, j'aimerais ça que ça soit plus homogène. C'est un peu ton désir, en fait, que tu nommais, là.
Mm-hmm. C'est clair. Puis, on a tout à apprendre, tu sais, à mieux se connaître, à travailler ensemble, puis justement, échanger toutes ces belles valeurs-là. Puis, nous, chez nous, on a encore des chasseurs, pêcheurs, il y a des gens qui se nourrissent encore exclusivement des objets de leur chasse. Puis, il y a toute cette conception-là, de remerciement, souvent, on va dire de façon un peu mythologique, là, puis les Premières Nations sont en connexion avec la nature, mais c'est réel.
Il n'y a pas de gaspillage, il y a le respect de l'animal.
Exactement,
oui.
Il y a un remerciement d'animal. Puis, tu sais, je pense que n'importe qui devrait se réapproprier un petit peu ces façons de voir les choses-là. Assurément, je trouve ça super le fun aussi qu'il y a des gens de chez nous qui t'ont amené dans le bois. Je pense que ça démontre aussi beaucoup d'ouverture de notre part, de dire viens dans mon quotidien, je vais te faire une immersion, parce que même si on est à 5 minutes, on vit quand même une réalité qui est assez différente.
Oui.
On vient aussi des horizons qui sont différents, mais très positivement, je pense qu'on a tout à gagner à ouvrir nos portes. Puis si on parle aussi du Onoa Lumina qu'on a chez nous, qui est une super belle activité à faire en famille, mais quand on arrive dans le Onoa Lumina, on est directement dans l'univers Huron-Wendat.
Puis on a tous trippé, hein, ici à la station. On a parlé, puis
c'est vraiment un bel
événement.
Puis ça permet aussi d'avoir une belle introduction, c'est de dire, bon, ben, tu sais, de façon super ludique, on va faire une activité, mais on va apprendre sur la culture Huron-Wendat, de voir nos conceptions, comment on voit les choses, les clans, notre façon aussi de se déterminer. Ça, je pense que c'est super intéressant comme activité. Fait que, on a tout intérêt justement à ouvrir un petit peu plus nos horizons. Puis, ça ne veut pas dire de façon, tu sais, je ne veux pas non plus qu'on soit très stéréotypé et dire, oh, bon, mais les Premières Nations sont juste en forêt et habitent dans des tentes. Puis, on est loin de là.
Il y a
ça aussi qui est le fun. On pratique ça, puis on a du fun aussi dans ce genre d'activité-là.
Mais c'est resté, mais de façon moderne. Là. Mais Jennifer, on va avoir le temps de se reparler. L'émission tire à sa fin. Je te remercie. Tu es courageuse aussi de penser à te présenter justement pour être finalement dans les prochaines élections d'octobre à Wendake. Jennifer Obensawin, on se reparlera. Tu n'as pas 30 ans. Tu as déjà 13 ans d'expérience malgré tout en politique autochtone. Tu veux être une jeune leader pour ta communauté. Est-ce que ça va fonctionner? À suivre, chose certaine, tu es déterminée. Donc, merci d'être passée à l'émission aujourd'hui dans leur CV.
Ça va, Kiné. Merci beaucoup.
À la prochaine. Bonne journée.
À bientôt. Au revoir.
On a conclu l'émission avec Jennifer. Si vous avez des questions à lui poser ou vous avez un contact intéressant avec la communauté puis vous souhaitez le partager, 88-971-1021. Moi, je vous dis à demain, 10h, pour cette heure-là qu'on partage ensemble. C'est un bonheur, en fait, que vous me donnez quotidiennement. Mais tout de suite, on s'en va s'amuser avec Yannick Marceau. Je dis ça parce que c'est tout un joyeux luron, justement, Yannick Marceau. Il est en feu aujourd'hui, puis Thomas Gauthier sera avec nous également. Merci d'être dans la programmation de Boulevard 102. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Puis la communauté, justement, celle d'ici à la radio, ne cesse d'augmenter, puis c'est un bonheur. On finit ça en musique? On finit ça avec Jérôme 50, les ramassés de canettes. Merci d'avoir été là.